vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 107. Un père ordinaire. Bonjour papa. Philippe Douroux. Ah, chers amis, bonjour. Nous sommes à Strasbourg. Je marche en ville. On croise des gens. Je compte. 1, 2, 3. Le Pen. Une personne, deux personnes. Et la troisième, là, qui, au simple coup d'œil, paraît plutôt sympathique. Elle vote Le Pen, comme 30% de la population. Tiens, des touristes allemands. Ah, je ne vais pas oser leur demander « Monsieur, madame, vous savez ce que votre père ou votre grand-père a fait pendant la guerre en Allemagne ?» Ils savent peut-être, et peut-être veulent-ils que cela ne se sache pas. Je répète souvent cette pensée de l'écrivain Garcia Marquez. Chaque personne a trois vies, une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Notre émission, vous l'avez bien connue, reçoit aujourd'hui un journaliste et écrivain, Philippe Douroux, qui vient de publier un livre intitulé « Un père ordinaire ». Et ce père, c'est le sien, et son père a été Waffen-SS pendant la guerre. Bonjour Philippe Douroux.
Bonjour.
Nous sommes au téléphone. Un père ordinaire, mais dont on peut soupçonner qu'il a fait des choses horribles. Cela a certainement existé très souvent, on ne sait pas, mais dans sa propre famille, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire.
Non, c'est sûrement pas quelque chose d'ordinaire. C'est sans doute, ça concerne à peu près 8 à 10 000 familles en France. Donc oui, non, c'est pas ordinaire. Et en même temps, je pense que chaque famille a des secrets comme ça, qui sont dissimulés.
Il y a un sentiment qui ne suscite pas le respect dans notre morale, c'est la trahison. Alors juge à dessein du mot « morale », parce que la famille, les amis ne sont pas des juges. Hein. Vous n'êtes pas un juge, vous n'êtes pas un flic. Non. Mais estimer que l'on a été trahi, c'est particulièrement, disons, déstabilisant. À quel âge avez-vous su ?
Nous, la famille a su quand j'avais 16 ans. 16 ans, on a su. Maintenant, on sentait des choses. Les enfants sentaient des choses. Nous étions pour l'essentiel deux enfants et on sentait des choses. Donc, il y avait une atmosphère étrange, très antisémite, très raciste, très xénophobe. Ça, on le savait. Maintenant, ce qu'on ne savait pas, c'est ce que mon père avait fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il décide de nous l'annoncer à 16 ans. Quand moi, j'ai 16 ans, mon frère en a 17. Et voilà, et on apprend donc qu'il a combattu aux côtés des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'il est allé jusqu'à Berlin.
Alors, est-ce qu'à 16 ans, on a conscience de ce qu'est être xénophobe, raciste, antisémite? Et même à 16 ans, bon, si, même si on n'est pas bon en cours d'histoire, est-ce qu'on sait ce que sont les nazis, les Waffen-SS?
La conscience, oui, enfin, la conscience c'est un mot un peu compliqué.
Alors, est-ce qu'on
oui,
sait, tout simplement
enfant, on sait, on voit ce qui se passe à la télévision. Quand vous avez 10 ans, en 1965, vous voyez ce qui se passe pendant la ségrégation raciale aux États-Unis, c'est-à-dire des petites filles noires qui vont à l'école et qui se font cracher dessus parce qu'elles doivent entrer dans des écoles réservées aux Blancs jusque-là. Ça, vous le voyez. Vous voyez la guerre du Vietnam un peu plus tard. Vous voyez cette petite fille qui court sur une rue, qui est nue et qui essaie d'échapper à des bombardements de napalm. Et puis, vous voyez d'autres images, les images des camps de concentration, parce qu'il y a 5 colonnes à la une, qui est une grande information de reportage et de journalisme d'investigation. Et oui, tout ça, vous le voyez, vous le savez. Vous le savez.
Mais ce sentiment de trahison, votre collègue Sorge Chalandon, qui est journaliste à Libé comme vous, hein, Il a raconté une trahison. Son ami irlandais de l'IRA, qui était en fait un espion britannique. Et il en a fait un livre. Et alors donc, l'écriture, le romanesque, peut-être vous allez me dire, Philippe Douroux, que ce n'est pas une thérapie.
Non, ce n'est pas une thérapie. Une thérapie, ça se fait dans un autre endroit. Ça s'appelle un cabinet d'analyse. C'est un endroit silencieux. C'est un endroit où vous n'êtes pas jugé, où vous pouvez parler et dire ce qui vous passe par la tête, entre guillemets. En le verbalisant, vous y êtes confronté et vous devez essayer de vous dépatouiller avec ça. Non, écrire un livre, c'est autre chose. C'est s'adresser au public pour dire voilà ce que j'ai croisé, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai, le fruit de mon enquête. Le fruit de mon enquête, c'est que 8 000, 10 000 Français ont participé à des massacres massifs en Biélorussie entre 1942 et 1944. Alors que l'histoire qui traîne, l'histoire que j'appelle cette mémoire de cette guerre, jusqu'à présent, dit non, non, ils se sont tenus à l'écart, ils ont gardé des routes et des voies de chemin de fer, c'est un mensonge. Voilà. Ouais.
Mais alors, à 16 ans, vous ressentez cela? Est-ce que, alors c'est bien sûr quelque chose de presque théorique, vous auriez eu besoin de ce qu'on appelle une cellule psychologique?
Non.
Comme après un accident de voiture ou...
Non, pas en ce qui me concerne, pas du tout, parce que ça me libère. Ça me libère parce que je vois la cohésion qu'il y a entre une éducation basée sur une certaine brutalité, des cris, des coups, et cette annonce. Et donc, là, si j'ose dire, le père vient de se réduire en cendres, il n'a plus aucune autorité, et moi, je peux commencer ma vie. Voilà, et je commence ma vie.
Alors,
ma vie commence à 16 ans.
Mais votre vie commence à 16 ans, mais vous avez mis presque 30 ans à écrire ce livre.
Oui, parce qu'il faut... Là, j'ai voulu reprendre à zéro toute l'histoire de la LVF, la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, qui est donc une unité de la Wehrmacht. Et j'ai voulu tout reprendre. Et tout reprendre, c'est un temps considérable. Il m'a fallu 6 années. Et 6 années où je n'ai fait que ça.
Que ça, oui.
Moi, j'ai appris à faire des enquêtes en étant en libération, entre autres. J'ai appris mon métier pendant une quarantaine d'années. Je peux vous dire que faire des enquêtes qui pèsent ce poids, il faut être totalement libéré. Donc, quand je suis parti de libération en juin 2018, je me suis mis à ce travail. Et c'est un travail considérable. C'est 29 000 archives, c'est des milliers de références pour désigner nommément qui sont ces hommes et ces hommes, parce qu'il n'y a que des hommes qui sont allés sur le front et qui ont participé à des massacres.
Alors justement, votre livre, ce n'est pas un livre de témoignage. Le témoignage est un combat. Hein. C'est, je crois, Jean Lacouture qui a dit ça à propos de Germaine Tillion. Mais il y a probablement plusieurs milliers de livres sur cette période, sur la Shoah. Alors, les plus connus sont ceux de Primo Levi, Roald Hilberg, Robert Antelme. J'ajouterai Les Bienveillantes de Jonathan Little.
Oui.
Et il y a aussi énormément de documents. J'ai lu qu'il y avait 30 millions d'archives au mémorial de la Shoah. On sait même que dans les ghettos, les gens écrivaient énormément. Alors, il y a certainement aussi plein de documents qui restent cachés dans les familles, alors notamment dans les familles comme la vôtre, ou les familles des bourreaux. Est-ce que votre père avait tenu un journal de bord ou rédigé des carnets? J'ai lu qu'il y avait 20 pages qui ont été trouvées un peu par hasard, mais autrement, il n'a pas écrit un petit peu sa vie?
Non, quand il s'échappe de Berlin, puisqu'il est à Berlin le 2 mai 1945, il s'échappe en ne gardant que sa carte d'identité française. Il n'a pas le tatouage, c'est important, et des Waffen-SS, il n'a que sa carte d'identité française. Et je dois dire qu'il ne gardera rien à la maison. À la maison, il y avait, de la presse d'extrême droite, ça, il y en avait beaucoup, mais il n'y avait aucun signe. Parce qu'on vivait dans une semi-clandestinité, il fallait pas que ce soit découvert, il y avait la crainte, à un moment il devient un personnage public, il faut pas que ça se sache, et à ma connaissance, il n'y avait rien à la maison qui trahisse son appartenance au Waffen-SS.
Oui, mais quand même, quand il est parti en 1943, il est parti, disons, officiellement, il y avait des registres, donc en 1945 ou 1946, s'il y avait eu une police qui aurait voulu enquêter, ils auraient pu le retrouver.
Oui, c'est plus compliqué de retrouver en 1946 un fugitif qu'aujourd'hui. Vous pouvez pas le suivre avec son téléphone, les contacts sont compliqués. Il s'appelle Michel Lefrançois, il vit sur la Côte d'Azur parce que il a tiré sur des policiers en 1946 ou 1945, je connais pas exactement cette date, mais il va être jugé en 50. Assez bon. Mais il est recherché mollement, mais à l'époque, il y avait d'abord des milliers de gens à retrouver. On s'est d'abord préoccupé des miliciens et des horreurs commises par la milice, avant de s'intéresser aux soldats qui avaient trahi leur pays, en allant les chercher. Mais les recherches étaient compliquées, beaucoup ont été pris au rapatriement. Mon père y a échappé, il a échappé toute sa vie à toute recherche.
Mais à un moment, il a repris son nom.
Oui, à un moment, en 53, il reprend son nom parce qu'il a été jugé en 50 pour, au départ, il devait être jugé pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Finalement, il est jugé pour constitution d'organisation dissoute, ce qui est un peu ridicule puisque si on pense à la Waffen-SS, on se demande ce que c'est que cette bande, c'est un peu étonnant. Mmh. Mais enfin, il est jugé pour ça, condamné à 15 mois. Comme il n'est pas là, il fera pas sa peine. En 51, il y a des mesures d'amnistie ou de remise de peine qui sont importantes. Il revient à Paris en 1952-53 et puis il commence une vie normale.
J'en reviens à votre écriture, votre travail d'écriture. Bon, en tant que, quand même que journaliste, même si vous vous défendez d'être un historien, Annette Wiewiórka, qui est la célèbre historienne, distingue trois phases dans l'écriture sur la Shoah. Les premières années, les témoins qui veulent rappeler ce qui s'est passé, mais il n'y a personne pour les entendre. Ouais. Ensuite, après, il y a eu le procès Eichmann, et donc là, les témoignages ont été sollicités. Et alors aujourd'hui, avec les derniers témoins, la semaine dernière, nous avons entendu Simone Pollack à Strasbourg, 95 ans. Alors, les survivants, mais on oublie aussi les bourreaux. On dit, l'historienne, donc Annette Wiewiórka, dit que c'est un véritable impératif social. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette dernière catégorie en racontant l'histoire de votre père ?
Évidemment. Évidemment, pour moi, je trouve effarant, ça fait peur, que l'histoire de la collaboration militaire française n'ait pas été écrite. Vous avez un livre qui a été écrit au début des années 2000, par un professeur de Giolito, mais qui n'était pas historien, mais qui est un livre honorable, mais qui ne traite pas de la nature des combats. Après, vous avez un livre d'un historien hongrois qui s'est intéressé à la collaboration militaire française, qui lui aussi tourne un peu autour de la question des massacres, mais cette question a été laissée, abandonnée, en déshérence aux mémorialistes, c'est-à-dire aux anciens de la LVF ou de la Waffen-SS française, et puis à deux ou trois hagiographes comme Jean Mabir ou Éric Lefebvre, qui ont écrit une fable qui dit « Oui, bien sûr, ils ont été là-bas, bien sûr, ils étaient dans une guerre d'extermination, mais ils n'ont fait que garder des routes et des voies de chemin de fer. » Et c'est ça qui surnage dans le discours aujourd'hui. C'est « Oui, ils ont été courageux, ils n'ont rien fait de mal, ils n'ont pas conquis la gloire, mais somme toute, ils sont revenus, ils peuvent revenir la tête haute. » Et ça, je trouve ça incroyable que ça surnage. Que ça tienne, et c'est pour ça qu'il fallait repartir vers les documents, uniquement les documents, et ne les faire parler que eux, n'utiliser que leurs lettres, leurs rapports, leur journal de guerre, pour qu'ils disent ce qu'ils ont fait. C'est pas moi qui dis qu'on pendait par vingtaine et que à Communary, 530 juifs ont été massacrés au bord d'une fosse avec les femmes, les hommes et les enfants. On brisait la nuque parce qu'on économisait les balles. C'est pas moi qui le dis, c'est l'un d'entre eux.
Vous faites la même démarche que Roel Hilberg, c'est-à-dire vous travaillez uniquement à partir de documents précis.
Uniquement,
oui.
Uniquement. J'en ai entassé 29 000, je pense, qui seront tous déposés. Là, c'est en cours.
Au mémorial.
De la Shoah à Paris.
Oui. Voilà. Vous citez aussi Jean Amouroux, qui lui se méfiait énormément de des témoignages, hein, parce que les témoins, la mémoire, ben elle est fluctuante et
Oui, la mémoire est fluctuante mais je trouve. Pour ça, je trouve ça intéressant de reprendre les écrits du moment, c'est-à-dire ce qu'ils ont écrit soit à leurs parents, soit à leurs sœurs, à leurs frères, à leurs pères, quand ils étaient sur place et qu'ils racontent, parce que là, ce n'est pas un problème de mémoire, c'est qu'ils écrivent parfois sans filtre. Ils disent « Bah oui, on massacre par vingtaine et on pend par vingtaine ». Et ça, ce n'est pas une question de mémoire, c'est un témoignage brut du moment. Et là, donc, ce n'est pas « j'ai oublié » ou « je ne me rappelle pas » ou « je ne sais pas quoi ». Ils disent.
Voilà, oui. Alors là, nous sommes à Strasbourg, hein, en Alsace. Ouais. Après, ouais. Là, vous connaissez ce que l'on on le nomme le drame ouais. des malgré nous. On oublie de parler aussi de ceux qui étaient allemands et qui étaient volontaires et ceux qui partaient normalement et tout. Et vous savez aussi ce qu'on disait en 45-46 après Rettemernit. On n'en parle plus, on ne veut plus en parler, parce que c'est trop dur, c'est trop compliqué, que si on en parle dans la famille, c'est un drame, parce que dans chaque famille, il y en a un qui était d'un côté, et puis l'autre de l'autre, et puis le cousin, il n'a pas voulu raconter ce qu'il a fait, et puis il y a celui qui revient de Tambov de Russie, mais il dit rien, et donc cette amnésie, mais qui est volontaire, hein, qui est assuré. Peut-être que pour les 10 000 Français de la LVF, ça a été un petit peu la même chose en disant bon, on a d'autres chats fouettés que de leur courir après.
Oui, et en même temps, ils sont une vingtaine ou une trentaine à avoir écrit leur mémoire pour faire tenir debout cette histoire vraisemblable de « on était des gardes-barrières ». Et on n'a fait que de garder des voies de chemin de fer et des routes. Ça, ils l'ont écrit.
Oui, mais quand même, parmi les 10 000 de la LVF, il y a quand même eu beaucoup de morts au combat.
Non, pas tant que ça. Il y en a eu 1500.
D'accord.
1500 selon le service historique de la défense de Caen qui répertorie les morts de la Deuxième Guerre mondiale.
Et votre père, donc, il n'a pas été tué. Est-ce que c'était de la chance, le hasard, ou est-ce que c'était bien est-ce qu'il était un bon soldat qui avait réussi à éviter le trop grand danger ?
Si vous voulez, quand il arrive en mars 43, il est mis à l'instruction. Je pense qu'il y arrive en Biélorussie en septembre 1943 et il va faire la guerre des partisans jusqu'en juin 44. La guerre des partisans, c'est extrêmement déséquilibré. Il y a des opérations qu'on appelle des opérations de nettoyage où il s'agit d'entourer une zone, une forêt, etc. et de rabattre et de considérer les hommes, les femmes et les enfants comme du gibier. Et ça, c'est très, très... Il y a 1000 morts d'un côté et il y en a 25 de l'autre. Donc, c'est dans des proportions... Le risque est faible. Le risque de mourir est très, très faible.
D'accord. Donc, ce n'était pas de la bravoure.
Non, pas du tout à ce moment-là.
Alors, est-ce qu'on peut dire que votre père était un salaud ? J'utilise exprès le terme parce que, justement, il y a un livre qui dit « Mon père, ce salaud ». Hein ?
Oui, moi, je suis... alors, dans le livre de Sorge, la distance du père au fils est très, très différente. Et je pense que dans le livre de Sorge, c'est...
Sorge Chalandon, hein, je précise.
Sorge Chalandon, pardon. C'est autant le salaud, c'est autant le père qui ne dit pas la vérité à son fils ou le salaud qui fait vivre des bobards ou des mensonges. Et ça, le fils Sorge ne le supporte pas, ne l'accepte pas. Moi, mon père, c'est un salaud au sens historique du terme. C'est le salaud sartrien ou alors c'est, je ne sais pas si le salaud sartrien est vraiment engagé parce que bon, mon père, oui, il fait partie qu'il le veuille ou non des tortionnaires. Et des bourreaux. Mmh.
Est-ce que vous pensez que votre... dites-vous que votre livre, comme celui de Sorge Chalandon, Mon père, ce salaud, que votre livre, Mon père ordinaire, c'est de la littérature ?
Alors j'ai essayé d'écrire. C'est là où je dis que c'est un récit, que c'est pas un livre d'histoire. J'ai essayé de faire en sorte que l'écriture appelle lecteur parce que je veux que le lecteur soit plongé dans cette histoire. Donc, oui, l'écriture, j'ai fait, si j'ose dire, un effort d'écriture pour qu'il y ait un lien entre que l'émotion vienne de l'écriture aussi. C'est l'écriture, quand c'est des massacres, c'est pas la peine d'en rajouter. Il faut avoir une écriture, je pense, un peu effacée. Bon, au début et à la fin, je raconte une histoire qui est une histoire humaine, et à ce moment-là, j'espère que l'écriture est en place. Est en place. Parce que comme journaliste, et à Libération, quand on part pour 10 000 signes, ça n'est pas 400 000 signes, mais on essaye quand même de faire en sorte que l'écriture porte le message et qu'elle soit, entre guillemets, bonne, qu'il y ait quelque chose qui porte le message, quoi.
Voilà, alors vous allez peut-être maintenant vous plonger plus dans la littérature, mais votre livre précédent, hein, sur le mathématicien Alexandre Grothendieck, alors moi je l'ai lu il y a, je sais pas, 4-5 ans, je suis tombé de ma chaise, je pouvais pas trouver qu'un type comme ça qui était caché, qui vivait comme un ermite, enfin franchement, mais je l'ai lu ce livre, alors ne vous vexez pas, mais comme si c'était un long papier pour un magazine du genre, hein, mais c'était pas
un compliment.
C'est un compliment, merci. Non, mais oui. c'est pas de la littérature comme comme Flaubert qui écrit Salammbô. Il invente tout, mais tout est vrai.
Je ne suis malheureusement pas, ou heureusement, je ne sais pas, l'auteur de Salammbô. Bon,
oui.
Mais ce que j'espère, c'est que c'est une construction de phrases. Pour essayer de saisir le lecteur. Voilà, pour Grothendieck, mon souci était d'essayer d'amener le lecteur à comprendre cet homme, y compris dans ses mathématiques. Alors j'ai passé des heures vraiment, avec des mathématiciens pour essayer de glisser mes mots, et que mes mots soient pertinents pour faire entrevoir ce que c'est que des notions mathématiques posées par Grothendieck, comme les motifs ou les topos.
Oui, mais vous savez que tous les grands mathématiciens sont des littéraires, enfin je schématise, mais à l'Oulipo, par exemple, Jacques Roubaud, je crois, c'était des mathématiciens.
Hein.
Voilà, donc, alors, vous dites encore, là, on s'approche de la conclusion de notre émission, vous l'avez bien connu, sur Radio Judaïque à Strasbourg, et nous sommes toujours avec Philippe Douroux, vous dites que ces soldats sont tous empreints d'un pur romantisme guerrier. Alors ça, c'est différent des hommes ordinaires, par exemple de Christopher Browning.
Oui, je pense que les hommes ordinaires de Christopher Browning sombrent dans ce magma, dans ce magma. Ben,
Browning, il dit qu'ils y sont allés parce qu'ils étaient au chômage, on leur a donné un boulot, et puis ils ont massacré les gens. Père, la LVF, c'est parce qu'il voulait sauver l'Europe du bolchevisme.
Donc je pense qu'un tiers sont des vrais fascistes, des vrais militants. Les deux tiers sont des paumés un peu comme Browning, ou des types qui sont là pour gagner de l'argent parce que c'est bien payé, ou bien qu'ils aiment bien la bagarre. Voilà, ça c'est vrai. Donc ce sont, somme toute, des hommes ordinaires aussi, mais je pense que pour mon père, par exemple, il y a un espèce de romantisme noir porté par Ernst Junger, qu'il estime être son père spirituel.
Oui, Orage d'acier.
Orage d'acier, entre
voilà.
Autres, le Bocto 125.
Oui, alors, Philippe Douroux, on ne conclut pas ce genre de conversation, mais quand même, j'ai une question, disons, finale, alors le mot final, la question finale. Votre mère Jacqueline, qui savait, est-ce que vous la considérez aussi comme, j'utilise exprès le masculin, comme un salaud?
Oui.
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 Ouh là là.
Oui, elle ne l'a pas arrêté, elle l'a encouragé. La brutalité vis-à-vis des enfants n'était pas quelque chose qui semblait la gêner. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. Oui, oui, mais on peut juger une femme à ses opinions, comme on juge un homme à ses opinions, mais les opinions de ma mère étaient épouvantablement racistes, antisémites et xénophobes.
Bon. Merci Philippe Douroux.
Merci
Philippe,
à vous.
Philippe, c'est comme Pétain?
Non, je pense que c'est comme Pétain,
ouais.
Oui. Je pense que ça aurait été plus clair.
Mais ils ne vous l'ont pas dit.
Non, parce qu'à ma naissance, mon oncle est là, il s'appelle Philippe, ma mère attend absolument une fille, il veut qu'elle s'appelle Florence, elle doit s'appeler Florence, je suis un garçon, et elle lance, appelez-le comme son oncle, Philippe. Bon, je pense que, voilà.
Voilà, donc merci Monsieur Douroux. Non mais vous n'avez pas honte
merci
de votre prénom.
C'était, non, c'est grec.
C'était l'épisode numéro 107 de « Vous l'avez bien connu ». Un père ordinaire. Bonjour papa, Philippe Douroux. Alors la semaine prochaine, nous recevrons Léa Münch, lauréate du prix de la Fondation Auschwitz à Bruxelles, qui est une universitaire alsacienne pour son travail sur la psychiatrie en Alsace à l'époque du national-socialisme et particulièrement de Stefansfeld près de Brumath. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. À la technique Thomas Marinelli et mon nom est Ambroise Perrin.